Jean-Yves Olivier, bonjour.
Bonjour.
Les ennemis d'hier se sont retrouvés à Dakar le week-end dernier, mais n'est-ce pas une réconciliation de façade ?
Je ne le crois pas. L'objectif est que d'autres réunions aient lieu et que sur des déclarations de principes qui ont été énoncées, nous commencions ensemble à mettre en place les décisions qui ont été prises.
Alors à cette réunion, il y avait des kadhafistes, notamment des proches de Seyf el-Islam Kadhafi. Il y avait aussi des anti-kadhafistes comme l'ancien djihadiste Abdelatif Belhadj et puis des représentants de la grande ville de Misrata. Concrètement, qu'est-ce qu'il est ressorti de cette réunion ?
Une déclaration qui peut établir les bases d'une réconciliation et d'une approche commune pour le devenir de la Libye. Ce ne sont que des déclarations, mais elles ont été approuvées à l'unanimité et elles comprennent, entre autres, un élément essentiel qui est la demande que les prisonniers politiques soient libérés et que ceux qui pourraient avoir des entraves à leur mouvement, ces entraves soient levées. C'est un point extrêmement important parce que c'est la première fois que ceux qui détiennent ou ceux qui ont aidé à détenir les prisonniers politiques principalement kadhafistes, reconnaissent la nécessité qu'ils soient libres et puissent s'exprimer librement.
Cela dit, Jean-Yves Olivier, à cette réunion, il manquait des représentants du maréchal Haftar. Ce n'est sans doute pas par hasard que, bien que cette rencontre ait été ouverte par le président Macky Sall et présidée par Mustapha Niass, elle a été dénoncée par la presse égyptienne et la presse d'Abu Dhabi.
En effet, le maréchal Haftar avait envoyé à Dakar deux représentants, mais au dernier moment, ils ont renoncé à participer à cette réunion sous le prétexte qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir en face de Abdelatif Belhadj.
Et vous êtes déçu ?
Je pense qu'ils réfléchiront pour Dakar 2 et au vu des déclarations qui ont été faites, qui sont des grandes déclarations de conciliation. J'espère que pour Dakar 2, le maréchal Haftar pourra déléguer ou être représenté d'une façon effective à la prochaine réunion.
Les participants ont donc demandé la liberté de circulation pour tous les prisonniers politiques libyens. Est-ce un message en faveur de Seyf el-Islam Kadhafi ?
Bien sûr. Son nom a été prononcé d'une façon très claire par les kadhafistes, mais pour des raisons de généralité, ils n'ont pas voulu créer un cas spécifique et la déclaration comprend Seyf el-Islam, bien entendu.
Bien qu'il soit toujours poursuivi par la Cour pénale internationale.
Bien sûr, mais dans ce sens-là, une commission a été nommée qui va approcher l'Union africaine pour que ces derniers approchent la Cour internationale pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution pour permettre à M. Seyf el-Islam de retrouver sa liberté de mouvement et d'expression.
Voilà un an, Jean-Yves Olivier, que la libération de Seyf el-Islam Kadhafi est annoncée, mais on ne le voit toujours pas. Alors est-il réellement sorti de sa prison de Zintane ?
Il est sorti de sa prison de Zintane. Nous savons qu'il bénéficie de ce qu'on appelle en Libye un droit d'asile qui interdit toute personne opposée à pénétrer la demeure qu'il occupe, mais il est encerclé et il n'a pas de liberté de mouvement pour le moment. Il ne s'exprime pas. Aucune vidéo circule à son sujet. Nous l'avons invité, bien sûr, pour cette réunion et nous l'avons fait contacter par des gens très proches, mais nous n'avons pas eu de réponse. On ne sait pas ce qui est devenu de Seyf el-Islam.
Alors certains de ses partisans annoncent sa candidature à la future présidentielle, mais beaucoup disent que Seyf el-Islam divise plus qu'il ne rassemble.
Mais le problème de la division n'est pas le problème essentiel. Seyf el-Islam, beaucoup de kadhafistes voient en lui l'héritier du père. Il doit faire partie de la réconciliation générale.
Autre kadhafiste très en vue, l'ancien grand argentier du régime Bachir Saleh. Le 23 février dernier, il a été grièvement blessé par balle à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous êtes l'un de ses proches, qu'est-ce qu'il devient ?
Écoutez, il est à Dubaï, où il se remet de l'attaque. Je pense qu'il arrivera à récupérer entièrement ses capacités physiques. Je l'espère en tout cas. Il a envoyé une lettre claire à ceux qui se sont réunis à Dakar comme quoi il soutenait la réunion qui a eu lieu.
Est-ce qu'il peut vous parler par exemple ?
Nous arrivons à communiquer mais d'une façon sporadique parce que les médecins lui conseillent un immense repos.
Alors en tant qu'ancien grand argentier du régime Kadhafi, Bachir Saleh garde la réputation d'être un homme très riche et de garder encore les codes de comptes bancaires très bien fournis ici et là. Est-ce que ses agresseurs n'ont pas tout simplement voulu lui extorquer de l'argent ?
Écoutez, pour avoir côtoyé M. Bachir Saleh de nombreuses fois, fait de nombreux voyages avec lui, je peux vous dire que sa situation confidentielle personnelle est à minima. Il a fallu que nous trouvions les moyens, par exemple, de régler ses notes d'électricité parce que la société d'électricité de Johannesburg avait l'intention de lui couper son électricité. Donc, je doute énormément qu'il ait à disposition des montants.
À votre avis, qui a tiré sur Bachir Saleh ?
Écoutez, mon opinion personnelle, connaissant bien l'Afrique du Sud et ayant vu ce genre d'incident au même endroit se produire précédemment avec un membre de l'ambassade du Sénégal, avec des envoyés militaires que le président du Togo avait envoyés, il s'est passé exactement le même incident. Il y a des bandes qui regardent arriver les Africains qui sont censés amener ou qui pourraient amener avec eux beaucoup de cash pour faire des achats à Johannesburg et ils sont systématiquement attaqués de la même façon aux sorties des bretelles des aéroports. Or, le jour où Béchir est arrivé, il revenait du Zimbabwe et peut-être que certains ont pensé qu'il avait beaucoup de cash. On lui a retiré, d'ailleurs, on lui a volé sa mallette et ses assaillants se sont sauvés. Maintenant, il est toujours possible que M. Béchir Saleh ait été aussi l'objet d'une atteinte à sa vie par des personnes tiers. Lui en est convaincu. Dans la lettre qu'il nous a adressée à Dakar, il pointe du doigt ses opposants politiques et toutes les spéculations sont possibles.
Bachir Saleh pense qu'il a été victime d'un attentat venant de ses adversaires politiques libyens, c'est ça ?
Il l'a écrit.
Est-ce que Bachir Saleh aurait pu prendre quelques précautions pour dissuader les gens de vouloir attenter à sa vie ?
Là encore, nous sommes dans la spéculation, mais la logique voudrait que celui qui se sent en danger, s'il détient des secrets, fait savoir à ceux qui pourraient l'attaquer que s'il lui arrivait quelque chose, ses secrets seraient mis à jour et seraient dévoilés. Si on veut se protéger dans ces cas-là, c'est la méthode que l'on emploie.
Et vous pensez que Bachir Saleh peut être édifié par la mort très suspecte de son ancien ami Chokri Ghanem, c'était à Vienne, en Autriche, en avril 2012, a pu prendre quelques précautions ?
J'espère pour lui que s'il détient des secrets qu'on dit qu'il détient, qu'il a pris des précautions. Je le souhaite pour lui.
C'est-à-dire qu'il a rédigé un testament dans lequel il fait savoir que s'il lui arrive malheur, eh bien certaines informations sortiront ?
Là encore, c'est une pure spéculation, mais la logique voudrait que ce genre de précautions soit prise.
Vous l'avez vu, ce testament de Bachir Saleh ?
Non, bien sûr que non.
Bachir Saleh, en tout cas, a fait savoir qu'il était moins dangereux vivant que mort.
C'est ce que je ferais dans cette situation-là.
Et vous, qui le connaissez bien, vous pensez qu'il a pris cette précaution ?
Il aurait dû la prendre, en tout cas. S'il détient des secrets, il a dû les consigner quelque part, ça c'est sûr.
En septembre dernier, Bachir Saleh a déclaré au Monde « Kadhafi a dit qu'il avait financé Sarkozy, Sarkozy a dit qu'il n'avait pas été financé, je crois plus Kadhafi que Sarkozy ». Est-ce que cette petite phrase a pu le mettre en danger ?
Si cette phrase l'a mise en danger, je ne sais pas, je n'interviens pas dans ce genre de choses.
Nicolas Sarkozy a donc été mis en examen en mars dernier par la justice française qui le soupçonne d'avoir fait financer sa campagne 2007 par le régime Kadhafi. Est-ce que vous pensez que les soupçons du juge Tournaire sont fondés ?
Je n'ai aucune information à ce sujet et je laisse la justice suivre son cours.
Oui, mais enfin, vous êtes un proche de Bachir Saleh et d'autres dignitaires de l'ancien régime Kadhafi. Vous avez nécessairement une opinion, Jean-Yves Olivier ?
Je suis un proche de Bachir Saleh de la même façon que je suis un proche de Abdelatif Belhadj. J'ai une position totalement neutre. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet.
Et sur le fond, est-ce que des valises ont circulé entre Tripoli et Paris, entre septembre 2006 et mai 2007 ?
Si elles ont circulé, je n'étais pas là pour les voir circuler. Et je ne sais pas si elles ont circulé. Et j'étais bien loin de tous ces problèmes au moment où ils se sont passés. Donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus.
Jean-Yves Olivier, vous n'êtes pas seulement un proche de plusieurs dignitaires libyens, vous êtes aussi un ami du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, cette semaine, vous êtes à Oyo, dans son village natal. La fondation Brazzaville que vous présidez, est-ce que c'est pour rehausser l'image du président congolais qui n'est pas très bonne en ce moment sur la scène internationale ?
La fondation Brazzaville que j'ai créée, et se sont joints à moi de très hauts dignitaires africains de tous bords et de toutes origines, n'est pas du tout un instrument du président Sassou Nguesso. Elle s'appelle Brazzaville parce que, comme vous le savez, monsieur Bouvier, je crois avoir joué un petit rôle et les accords de Brazzaville ont permis de débloquer une situation très grave au niveau de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe. C'est pour ça que je l'ai appelé Brazzaville, parce que c'est une référence à ce à quoi j'ai participé. Mais c'est là le seul lien. Quant à ma présence à Oyo, elle se justifie parfaitement aujourd'hui, parce que c'est ce qui a été décidé à Dakar et que nous devons intervenir au auprès de l'UA pour que ces derniers en trouvent et essayent de trouver une solution à la libération des prisonniers et la libre circulation des individus en Libye. Et le président Sassou Nguesso est le président de la commission qui est chargée des problèmes libyens. Donc c'est à ce titre-là que je me suis rendu à Oyo pour le rencontrer.
Dans votre fondation Brazzaville a figuré l'un des chefs d'orchestre de la campagne du candidat Emmanuel Macron, l'ancien ministre chiracien Jean-Paul Delevoye. Il est toujours dans votre fondation ?
Il s'est mis... La fondation Brazzaville n'accepte pas les politiciens en activité. Monsieur Delevoye ayant décidé de se joindre à l'équipe de Monsieur Macron, il a demandé de le mettre en réserve et il s'est retiré provisoirement de la fondation Brazzaville. Et c'est une décision que nous avons faite ensemble. Elle n'implique pas du tout que M. Devoise a quitté la Fondation Brazzaville. Il s'est simplement mis en réserve de la Fondation Brazzaville pendant la période où il exercera des responsabilités politiques.
Il s'est mis en réserve à la fois à votre demande, à sa demande et peut-être aussi à la demande d'Emmanuel Macron.
Là encore, M. Boisbouvier, c'est une pure spéculation. Je ne suis pas dans le bureau de M. Macron ou de M. Delevoye lorsqu'ils se parlent. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça s'est passé d'une façon très amicale, très naturelle, sans que les uns ou les autres semblent avoir eu des pressions à ce sujet.
Au Congo-Brazzaville, après la présidentielle très contestée de mars 2016, l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko s'est retrouvé encerclé à son domicile. Et aujourd'hui, il affirme, via son avocat français Norbert Tricot, que vous lui avez rendu visite à l'époque pour faire pression sur lui afin qu'il reconnaisse la victoire de Denis Sassou Nguesso.
J'ai rencontré, en effet, le général Mokoko à plusieurs reprises dans sa résidence surveillée dans laquelle il se trouvait. Le général Mokoko m'a fait contacter par un de ses adjoints pour voir dans quelle mesure je pouvais servir de go-between, d'intermédiaire, disons, ou de facilitateur dans une solution qui le concernait. Je l'ai rencontré à ce sujet. Nous avons eu de nombreux entretiens. J'étais seul ou avec le représentant qui l'avait désigné pour me contacter. Nous avons rédigé un document qui a circulé et finalement, le général Mokoko, dans un message qu'il m'a adressé, m'a indiqué qu'il renonçait à cette démarche et je ne l'ai plus revu depuis.
Donc, à l'époque, vous lui avez conseillé de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso.
Je ne lui ai pas conseillé, je n'ai nullement fait d'un conseil. Je crois avoir entendu que le général Mokoko a pris des enregistrements et je suis sûr que si ce conseil avait été formulé, l'enregistrement où je le lui conseille devrait apparaître. Je souhaitais que le général Mokoko retrouve sa liberté. J'ai essayé de trouver un modus vivendi entre les autorités congolaises officielles et le général Mokoko. Ça a été ma seule démarche.
Et aujourd'hui, sa condamnation à 20 ans de prison, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il a été jugé, il a décidé de se taire. Je crois comprendre que certaines preuves ont été présentées au tribunal prouvant qu'il a essayé de faire un nouveau coup d'État. La justice est passée, je respecte la justice telle qu'elle a été prononcée.
Mais vous ne craignez pas que cette lourde condamnation ne ravive les tensions au Congo ?
Je ne souhaitais pas une condamnation, je ne souhaitais pas un procès. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'aider ou d'essayer de trouver une solution entre lui et l'État congolais. Ça n'a pas réussi, chacun a pris ses responsabilités.
Jean-Yves Olivier, merci.